Il est mort Jim, lu par l'auteur. Chapitre 9, épisode 59. Un jour, en sautant d'une radio à l'autre sur ma chaîne stéréo, je suis tombé sur une émission de musique. L'animateur était un Français et il invitait les auditeurs à le rejoindre pour faire avec lui l'émission la semaine suivante. Il devait savoir qu'il n'y en avait pas beaucoup. Quand j'ai compris que ce serait en espagnol et pas en français, j'ai téléphoné pour proposer mon nom. Le Français me répondit lui-même. La semaine suivante, je me rappelle bien, je suis arrivé à la radio à 19h. L'émission débutait à 19h30. J'avais bien fait de partir tôt, car j'avais pas mal erré avant de constater que le petit studio était dans le couvent lui-même. L'émission ne m'a pas laissé un grand souvenir. Je dis quelques mots sur la musique française que je ne connaissais pas et qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Ce qui me parut le plus surprenant, c'est que l'émission débutait juste après la messe. Cela faisait un drôle de contraste. À la fin du programme, le curé principal entra dans le studio. Le père Fortuna, il s'appelait. Un bel homme d'environ 45 ans, extrêmement sympathique, qui bavarda avec nous de choses et d'autres. Il paraissait extrêmement ouvert et content que la radio de l'église accueille un programme culturel jeune. Ça m'a plu et j'ai gardé contact avec Santo Domingo. Avec les années, je me suis moins intéressé à la politique qu'au réconfort de l'église. Je vois régulièrement le père Machado qui connaît bien la théologie. Je pourrais lui demander de te recevoir si tu veux. Gertrudis était décidément surprenante. Je compris qu'elle n'était pas la femme d'intérieur soumise qu'elle donnait l'impression d'être. Elle avait d'ailleurs obtenu une licence de lettres, ce que j'appris incidemment en lui posant des questions sur sa vie. J'étais déjà passé plusieurs fois devant le couvent Santo Domingo. En retrait de la place d'armes, avec ses murs roses ocre salis par la pollution, le bâtiment n'avait jamais attiré mon attention. Je préférais amener les touristes qui me rendaient visite devant le palais présidentiel au moment du changement de la garde ou marcher un peu plus loin dans la rue Junin pour qu'ils admirent les vieux balcons coloniaux. Lorsque je franchis le porche, je fus saisi par cette odeur caractéristique des églises coloniales liméniennes. L'encens mêlé à la pierre froide. Je ne savais pas trop comment on était introduit à un rendez-vous ecclésiastique. Y aurait-il dans les couloirs du couvent des panneaux indiquant où se trouvaient les bureaux de l'administration ? Une secrétaire devant son ordinateur ou racontant sa dernière séance chez le coiffeur à une de ses collègues en attendant l'heure de la pause café dans un petit bureau attenant à celui du père Machado ? Je n'eus pas à m'interroger plus avant. Un homme grand, d'une soixantaine d'années, avec un léger embonpoint et un discret costume, où je ne distinguais la croix qu'une fois à proximité, s'approcha de moi dans la première travée du cloître. « Monsieur Rousseau, n'est-ce pas ? Ainsi, vous êtes professeur d'histoire à la PUC ? J'adore l'histoire, moi aussi. » Il était logique de commencer par une visite du lieu. Mais sans doute que je devais déjà bien le connaître. Je me gardais bien de contredire mon hôte. Bien sûr, j'avais une vision globale de l'histoire coloniale liménienne, mais ma spécialité était l'histoire contemporaine. Le premier cloître dans lequel nous nous trouvions était assez joli, avec ses azulejos sévillants sur les murs et les piliers. L'histoire du fondateur de l'ordre des Dominicains, Santo Domingo de Guzmán, y était représentée. L'édifice, fondé en 1535, était considéré comme le plus ancien du centre historique de Lima. Cela ne souffrait pas de conteste, puisque Francisco Pizarro avait fait édifier la ville justement à cette date. Je tendis l'oreille lorsque le père Machado dit que la plus vieille université d'Amérique, la San Marcos, était née là, en 1551. Les premiers cours avaient lieu dans la salle du chapitre. L'histoire était étrange. Imaginez les prédécesseurs des étudiants que j'avais connus dans un endroit comme celui-là où les moines habituellement se réunissaient. Je me souviens de la visite que j'avais effectuée dans les locaux actuels en 1987 avec Claudio Pérez. Comme un film, je revis un étudiant agressif qui voulut nous chasser du lieu. L'université San Marcos, dans les années du Sentier Lumineux, bouillait comme un chaudron. L'effigie du président Abimael Guzmán avait remplacé les représentations saintes et christiques. Quel abîme entre ces images! Deux choses me vinrent instantanément à l'esprit, si soudaines et rapides, que je ne perdis même pas le fil des explications du père Machado. J'eus même le temps d'observer mes propres pensées et de percevoir, une fois de plus, que mes recherches faisaient involontairement évoluer ma considération des choses. La première réflexion était qu'il y avait incontestablement une vision manichéenne du ciel et de l'enfer dans la juxtaposition des images du Christ et du leader du sentier lumineux. Quel dessein pouvait poursuivre une entité supérieure en permettant l'incarnation d'un être comme lui? Je me demandais également, en constatant que j'avais revu la rencontre de 25 ans auparavant avec l'étudiant de San Marcos comme un film, si la fameuse vision de vie des EMI ressemblait à cela. Je me pencherai de nouveau sur cet épisode récurrent des narrations d'EMI.